voix nue. Cette semaine, Adila Benedjaizou rencontre Philippe Mangeau. Ce soir, transmettre.
Bonsoir Philippe Mangeau.
Bonsoir Adila.
Pour notre dernier soir ensemble, la photo Instagram que j'ai choisie est encore celle d'un jeune homme. Mais cette fois-ci, ce n'est pas vous. C'est un jeune homme à la fois souriant et pensif. Et vous commentez la photo ainsi, quand un ancien étudiant vous invite à déjeuner avec sa première paye. Qu'est-ce que cette photo raconte de l'enseignant que vous êtes ?
Qu'est-ce que cette photo-là raconte ? Je ne sais pas si que ça raconte de l'enseignant que je suis, mais ça raconte quelque chose du drôle de métier que je fais. Je suis enseignant en classe préparatoire, mais je crois que ça ne serait pas fondamentalement différent si j'étais enseignant en lycée, en collège ou à l'université. On ne sait jamais à quel moment quelque chose va se nouer dans ce métier. Et très souvent, ça ne se noue pas exactement pendant l'année. Si bien qu'on ne sait jamais non plus avec lesquels de ces étudiants quelque chose va se poursuivre. Quand on est prof, il y a... Je parlais hier des régimes d'amitié. Il y a une possibilité d'amitié qui est au cœur de la pratique de l'enseignement. Mais cette possibilité est barrée. Et elle est doublement barrée. Elle est barrée d'abord par le rapport de pouvoir, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amitié au sein des relations de pouvoir, mais en tous les cas, il y a une inquiétude qui pèse sur cette amitié. Elle est barrée également par l'existence du groupe, qui fait qu'il n'y a pas d'amitié singulière. Il peut y avoir une amitié avec une classe, par exemple. Et puis plus tard, 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans parfois, des anciens élèves, d'anciens étudiants vous rappellent. Et on ne sait jamais, on ne saura jamais exactement pourquoi ils vous ont rappelé, ou si c'est parce que c'est soudain devenu possible pour eux, ou si c'est parce que soudain quelque chose qui a été dit à un moment dans un cours a trouvé son lieu. Parce que enseigner, c'est toujours inventer une multiplicité de régimes d'énonciation. On parle ici et maintenant, dans le cadre du concours auquel on prépare, de l'examen auquel on prépare, du texte qu'on étudie, mais on parle aussi, et il n'est pas question d'ailleurs d'oublier ça, mais on parle aussi en envoyant des messages dans les étoiles dont on ne sait jamais à quel moment ils seront reçus, et si tant est qu'ils soient reçus. Donc voilà cette photo, je vois très bien de quel étudiant vous parlez, c'est un étudiant qui aurait dû avoir Normalsup et qui ne l'a pas eu. Et qui a beaucoup souffert de ne pas l'avoir parce que j'enseigne dans le cadre d'une institution douloureuse pour un certain nombre d'étudiants. Et il m'a téléphoné pour me dire qu'il allait bien. Voilà. Et il m'a invité. Et j'étais évidemment très très ému c'était une émotion qui évidemment donne du sens à mon métier. Si ce métier est un métier impossible, pour reprendre ce qu'en dit Freud, c'est notamment que rien n'y est vérifiable. Alors même qu'on se donne l'illusion qu'on est tout le temps, qu'on a des procédures de vérification, parce que c'est un métier qui ne cesse d'évaluer et de soumettre par ailleurs son enseignement par l'intermédiaire des étudiants, des élèves, à des évaluations. Donc le rapport entre cette obsession de l'évaluation et la conviction profonde, dès qu'on enseigne un peu sérieusement, qu'on a affaire à du non-évaluable, est quelque chose de vertigineux.
La première fois que nous nous sommes parlé pour préparer cette émission, vous m'avez dit que le goût de l'enseignement était probablement au cœur de tout ce que vous avez fait. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ?
Alors, il y avait d'abord une forme de réaction qui n'était pas de réaction un peu agacée, même si ce n'était pas un agacement à votre encontre. C'est que de même qu'on me présente très volontiers comme philosophe, on oublie souvent de me présenter comme enseignant, alors que c'est vraiment le centre. Ce qui raconte quelque chose sans doute moins sur moi que sur l'état du monde, c'est-à-dire sur une forme de discrédit ou d'oubli de la fonction centrale de la transmission et de l'enseignement. Comme si, au bout du compte, ce qui m'instituait, c'était bien davantage Act Up, Vacarme, la participation au scénario du film de Robin Campillo ou du film de Mario Fanfani, que la pratique d'enseignement. Or, c'est faux. C'est faux d'abord parce que ce qui me fait vivre, c'est vraiment la pratique de l'enseignement. Et c'est faux aussi parce que c'est aussi ce qui me fait le plus travailler dans ma tête. Au point d'ailleurs que j'ai très souvent l'impression que tout ce que je fais par ailleurs, indépendamment de l'intérêt que ça a pour moi et de l'importance que ça a pour moi, et j'espère que j'en ai témoigné au cours de ces séances, mais tout ce que je fais est ce qui vient irriguer, donner de la chair à ma pratique d'enseignement. L'élève que j'étais a appris auprès des enseignants qui comptaient pour lui, et des enseignantes qui comptaient pour lui, que les grands profs sont souvent des profs qui ont une double vie. Chose qu'il faudrait vraiment réfléchir à l'heure où les réformes successives de l'enseignement entendent de nous mettre au pas, nous empêcher d'avoir une double vie, nous mobiliser beaucoup plus longtemps sur le lieu du lycée, sur le lieu de l'université, sur le lieu du collège. Non. Un enseignement, ça se fabrique ailleurs que dans le lycée, dans le collège, etc. Ça se fabrique dans ses profondeurs et dans ses plis-là. Ça se fabrique dans ses lectures incertaines. Ça se fabrique dans ses expériences militantes. Et tout ça est remis au pot dans le moment singulier du cours.
Il paraît qu'une des choses qui vous fait le plus souffrir au monde, c'est de corriger des copies. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Parce que c'est très long d'abord. On va commencer comme ça, c'est-à-dire que quand je reçois un paquet de 50 copies, ça veut dire 50 heures de correction. Et 50 heures de correction, ça veut dire 80 heures de mobilisation, parce qu'évidemment, entre deux copies, on fait autre chose, mais pour autant, on s'interdit de faire autre chose. Donc ça commence comme ça. Et puis une copie, il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire si on considère qu'il ne s'agit pas seulement d'évaluer et de noter la copie, mais de la lire comme je disais l'autre fois que j'essaye de lire les écrits qu'on me soumet pour que je donne un coup de main. C'est-à-dire de la lire en repérant ce qui pourrait être intéressant, ce qui pourrait bouger, etc. Ça prend énormément de temps. Ça demande énormément d'attention, alors même que la différence avec les textes dont je vous parlais l'autre fois, c'est que c'est souvent des pas très bons textes. C'est-à-dire, ça arrive dans un paquet de copies. Dans un paquet de copies, il y a toujours des miracles. Enfin, quand je dis miracle, ça ne veut pas dire que c'est inattendu, mais je n'ai jamais corrigé un paquet de copies sans avoir été ébloui par un ou deux, je parle au masculin, mais je pourrais parler au féminin, donc un ou deux étudiantes, on va dire, dont je me demande comment ils se sont construits. Ils ont 20 ans, ils pensent et ils écrivent comme jamais j'aurais écrit à 20 ans.
Comme c'est notre dernier soir, je nous offre une deuxième image Instagram. Celle-ci, c'est la photo en gros plan d'un homme en train de fumer une cigarette et que vous commentez ainsi. Thomas et moi, nous sommes rencontrés sur un site de vidéo chat. Nous partageons le même fétichisme du fumeur. Nous ne nous sommes jamais rencontrés en chair et en os et deux fois par mois, nous échangeons des vidéos de nous en train de fumer.
Ah, mais ça a à voir avec le plaisir d'inventer des formes de relationnalité nouvelles, quoi. Et qui sont liées aux possibilités spécifiques d'Internet. Alors, il faut dire une chose, c'est que j'ai arrêté de fumer pendant 10 ans. Et j'ai recommencé pour le même type de raison que les raisons pour lesquelles les adolescents commencent à fumer, c'est pour des raisons érotiques. Tout d'un coup, il se trouve que j'avais vécu pendant 9 ans avec un Mario, c'est mon expérience conjugale la plus longue, parce qu'en général, mes maris meurent avant qu'on ait le temps de s'installer durablement. Mais, et puis, je me suis retrouvé donc célibataire. Et un célibataire de presque 50 ans a besoin de se reconstituer narcissiquement. Et se reconstituer narcissiquement pour moi, ça a été de me réérotiser à la faveur du retour de la cigarette. Bon. Et à partir de ce moment-là, il y a eu tout un jeu, depuis 10 ans, indépendamment de mes histoires d'amour. Je regarde un garçon fumer sur le net. Au départ, c'était YouTube. Et tous les jours, il se filme en train de fumer une cigarette. Et j'ai mis très longtemps à comprendre que par ailleurs, sans doute, il se masturbait en fumant une cigarette, mais comme c'est hors cadre, je ne le voyais pas. Et donc c'est très émouvant, c'est une relation que je construis sans qu'il le sache avec ce garçon tous les jours, depuis 10 ans. Donc je l'ai vu vieillir, je l'ai vu déménager, j'ai vu changer de look, j'ai vu perdre ses cheveux. C'est très romanesque, cette relation de loin que j'entretiens avec ce garçon. Et un jour que j'étais avec Mathias, qui est un amoureux autrichien, je lui montre ces images, il me dit qu'il connaît le garçon, pure coïncidence. Mais il me raconte une histoire de rencontre sexuelle avec lui complètement désastreuse, ça nous fait rire ensemble. Et puis je lui dis, mais qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans ? Il me dit, à ton avis, à ce moment-là, je fais le malin, je dis, c'est beau comme de l'art conceptuel, quoi. Un type qui fumerait une cigarette tous les jours. Donc c'est un art conceptuel pauvre, c'est très beau. Et là, il se moque de moi, car Mathias sait se moquer de moi et toucher exactement à l'endroit où il le faut. Et il me dit, mais non, ce qui t'intéresse là-dedans, c'est que ce type pornographie son visage. C'est-à-dire qu'il rend son visage regardable et obscène à la fois, donc parfaitement désirable. Et ça m'a semblé absolument lumineux. Je me suis dit, waouh ! Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à jouer à la pornographie de mon propre visage, qui a été, en un sens, le début, ou en tous les cas, une préhistoire d'Instagram. Une façon de jouer avec... de faire miroiter... des possibilités de soi qui alimentent en un sens une forme de désir paradoxal et lointain pour soi-même ou pour l'autre. Donc ça a à voir avec ça, oui. C'est drôle parce que Thomas, je l'ai rencontré une seule fois, le Thomas dont vous parlez, le Thomas de la photo, et c'était pas terrible. C'était pas terrible, c'est comme si notre lieu... Et le lieu d'une relation qui est une relation réelle, effective, non moins importante que d'autres que je peux avoir, dont je ne dirais pas que c'est une relation amoureuse, dont je ne sais pas si c'est une relation amicale, mais c'est une relation. Et qui a son intensité. Ce lieu-là ne pouvait pas être le bar où on s'est retrouvé un jour. Et où on n'avait pas grand-chose à se dire. Et en fait, il se pourrait bien que ce soit notamment ça qui m'intéresse aujourd'hui. L'invention de modes de relationnalité. Je me souviens de la lecture d'un entretien avec Michel Foucault, qui disait qu'on était pauvre dans l'invention des formes de relations. En fait, souvent, quand je lis de la littérature d'idées, enfin, ou de la philosophie, je lis de façon rêveuse. Donc, je suis pas sûr de comprendre exactement ce que je comprends, enfin, ce que je lis. Mais en revanche, j'ai des idées qui naissent. C'est-à-dire, en gros, je fais des bébés dans le dos de celles et ceux que je lis. Et ce qui est sûr, c'est que cette histoire d'invention de forme de relationnalité, elle a continué à me travailler. Et donc peut-être à la faveur d'un malentendu sur ce que Foucault en disait, ça a eu des effets. J'aime beaucoup les gens. C'est une formule complètement idiote, mais je crois que c'est vrai. J'aime beaucoup les gens et je m'intéresse beaucoup à eux. J'aime beaucoup les interroger. Ce qui est bizarre de dire ça aujourd'hui parce que c'est vous qui m'interrogez. Parce que si j'ai un petit génie, tout petit, mais réel, c'est de savoir les questionner à l'endroit où ils sont intéressants. Très souvent, les gens ont l'air bêtes parce qu'on les questionne, on leur demande de s'exprimer sur des choses sur lesquelles ils sont pas intéressants. Et c'est le café du commerce. Mais dès qu'on les questionne sur des choses dont ils font concrètement l'expérience, leur travail, mais vraiment leur travail, c'est sidérant à quel point d'ailleurs on pose jamais aux gens des questions sur leur travail. C'est-à-dire sur leur savoir, c'est-à-dire sur leur intelligence spécifique, alors ils deviennent vraiment passionnants. Mais ça suppose d'être très attentif à ce qu'il y a d'absolument singulier entre cette personne et moi-même, et donc d'inventer des dispositifs adéquats. Voilà, ça c'est mon petit talent.
Est-ce que c'est pour cette raison-là que vous avez créé l'Observatoire des passions, pour interroger des gens sur...
Alors, il y a mille raisons pour lesquelles j'ai créé l'Observatoire des passions, parce que Beaubourg m'a demandé si j'avais une idée. J'avais commencé par dire non à Beaubourg, à deux reprises. Mais il faut jamais me demander si j'ai une idée, parce que je suis tellement vaniteux, là, pour le coup, que tout de suite, j'en sors de ma besace. Et puis après, il faut bien faire avec les idées qu'on a formulées. Et donc, quand Jean-Max Collard, du Centre Pompidou, m'a demandé si j'avais une idée, je lui ai dit, ça serait intéressant de travailler sur les passions contemporaines. Bon, voilà, pour des raisons multiples, parce que j'avais travaillé sur des traités de passion du XVIIe siècle, parce que je m'intéressais à la question à la disponibilité de l'exposition des passions sur le net aujourd'hui. Donc, je me disais que ça serait intéressant. Ça, c'est l'idée de départ. Mais le dispositif de l'Observatoire des passions, qui consiste finalement à recevoir des gens, à leur demander... quelque chose de pas forcément facile, c'est-à-dire de parler de leur propre passion, de leur propre intelligence, de leur propre passion, justement, et de parler en public d'une expérience souvent très intime et pas forcément très glorieuse, parce qu'une passion, c'est toujours quelque chose de mélangé. Ça, ce dispositif-là, il a à voir avec ce dont je parlais tout à l'heure. Et c'est une forme qui s'est, en fait, inventée au fur et à mesure des observatoires des passions. Parce que les premiers n'étaient pas très réussis. Parce que je ne savais pas bien le faire. Et puis parce que je n'avais pas encore compris que c'était du côté de ce que je sais faire qu'il fallait aller. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce rendez-vous régulier. D'abord, c'est l'idée même qu'il y a des gens qui viennent régulièrement. Et donc l'idée même de l'invention d'une forme assez impure entre des choses très intimes, parce qu'il y a une exposition de l'intime, y compris de la mienne d'ailleurs, dans l'Observatoire des passions, et des choses très publiques, très générales. Et là, il y a une impureté qui m'intéresse. Il y a aussi une autre impureté qui m'intéresse, qui est-ce qu'on peut faire autre chose qu'un séminaire ou un show ? Voilà, est-ce qu'on peut faire autre chose qu'un séminaire au sens où c'est un laboratoire des pensées constituées, ou un show au sens où il n'y a que l'efficacité qui est véritablement pensée. Est-ce qu'on peut penser une forme qui serait intermédiaire ou impure ? Et finalement, si je dis impure, c'est parce que c'est quelque chose sur lequel je reviens souvent. Il n'y a que ça qui m'intéresse véritablement, c'est les formes impures. Hier, on parlait de littérature. La littérature, c'est de l'idée impure. Et dans son impureté, la littérature comme l'art en général, mais dans son impureté, il y a la possibilité d'invention d'idées qui n'auraient pas été formulées dans les canaux habituels de la production des idées.
Au cours de de ces observatoires des passions, vous demandez systématiquement à vos invités des trois passions augustiniennes, celle du savoir, celle du pouvoir et celle du sentir, laquelle ou lesquelles les animent. Du coup, je vous retourne la question. Est-ce que vous y avez réfléchi pour vous ?
Bien sûr que j'y ai réfléchi pour moi. En fait, c'est presque un jeu, cette histoire de Saint-Augustin. Parce que, encore une fois, c'est pas exactement ce qu'il dit. C'est mon malentendu sur Saint-Augustin. En gros, Saint-Augustin considère qu'il y a trois libidos, des concupiscences, comme on dit, que moi je traduis par passion, donc je fais un premier écart, et que toute passion, en fait, se situe à l'articulation entre ces trois libidos fondamentales, exactement comme toutes les couleurs se situent à l'articulation entre les couleurs primaires que sont le rouge, le blanc, le jaune et le bleu. Là, donc, c'est savoir, sentir, pouvoir. Le pouvoir renvoyant, si, pas exclusivement au pouvoir sur autrui, mais aussi au pouvoir sur soi-même. À ce terme si important pour moi, qu'a été l'empowerment à ACT UP. L'idée que toute politique a pour mission et pour fonction de permettre à chacun de reprendre du pouvoir sur sa propre vie. Et de ce point de vue, et je vous jure que je ne botte pas en touche en répondant comme ça, je crois que je suis à l'exacte intersection entre les trois. Empowerment, sans aucun doute. Passion de savoir, et qui passe très largement par ma relation avec autrui. Et passion de sentir, parce que je crois que les idées sont impures et qu'elles passent toujours par les corps.
Lors d'un interview, quand vous étiez président d'ACT UP, vous avez dit que votre combat était d'être à la fois incontournable et infréquentable.
Ah, pas le mien, hein, celui d'ACT UP.
Oui, le combat d'ACT UP. Mais vous avez ajouté, chose assez jolie, que vous aimiez l'idée d'être une personne à qui on devait serrer la main sans en avoir jamais envie.
Ouais.
Aujourd'hui, vous êtes devenu quelqu'un de très fréquentable.
Oui, mais je l'étais déjà à l'époque. En fait, je suis très gentil. C'est pour ça que je parlais pas de moi. Je parlais vraiment d'ACT UP. C'était ça le jeu à ACT UP. Le jeu à ACT UP, c'était que on était vraiment des voyous. Et en même temps, on était devenus tellement indispensables à la production même de la recherche thérapeutique, à la pensée même du sida, que c'était hallucinant. C'est-à-dire qu'on nous mettait à une table, c'était hallucinant parce qu'on était fort, quoi. Et il y avait cette espèce de truc merveilleux qui était qu'on déroutait vraiment tous nos interlocuteurs. Parce qu'ils nous recevaient avec des pincettes et en même temps ils savaient bien qu'ils y avaient intérêt. Et qu'ils y avaient aussi un intérêt intellectuel. Je pense que j'ai jamais été comme ça. En ce qui me concerne, j'ai toujours été un type à qui on a envie de serrer chaleureusement la main, je vous assure. Non, mais ça aussi, c'est-à-dire que c'est ça qui est drôle aussi, c'est que une des grandes aventures de ma vie, ça a été à ACT UP. À ACT UP, j'ai accepté de jouer le mauvais rôle. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde aime ACT UP, surtout à la faveur du film qu'on a fait, tout le monde nous adore, mais on nous aimait pas tellement. Il faut s'en souvenir quand même à l'époque. On nous détestait, on nous traitait mal dans les médias. On nous soupçonnait de mille choses injustes. Et j'ai accepté de jouer ce rôle, comme tous les militants d'ACT UP, avec une certaine gourmandise, qui est la gourmandise de la fiction. Oui, je crois vraiment que je suis un type gentil. Après, je fais partie des types gentils qui intimident un peu un certain nombre de gens, ça je le vois bien. Par exemple, mes étudiants ne penseraient jamais spontanément que c'est facile de me faire une petite tape dans le dos gentiment. Je crois que je les intimide un peu.
Et ça vous plaît ?
Ça ne me dérange pas. Voilà. Je ne crois pas que ça me plaise particulièrement. Je ne crois pas que ça soit ce que je cherche. Quand j'ai commencé une analyse à la mort de mon amant du dimanche, dont il a été question de loin en loin dans ses entretiens. C'était vraiment la mort de trop. Et puis très vite, c'est pas qu'on dépasse cette souffrance, mais s'ouvre une série de chantiers. Parmi les chantiers, il y avait notamment le fait que je n'avais pas d'œuvre. Ce qui pose une question, quand même, quand on n'a pas non plus d'enfant. Mais de ça, il a été question aujourd'hui, par exemple, ou hier, et à d'autres moments. Mais parmi ces chantiers, il y avait aussi le fait que j'étais très encombré de moi-même, de la statue du commandeur que je représentais, pour moi et à l'occasion pour autrui. Je crois que ça va mieux. Je crois que je suis moins encombré et moins encombrant. J'ai fait de petits progrès.
Vous parlez de laisser une œuvre ou avoir un enfant, il faut absolument laisser quelque chose ?
Non, il ne faut pas. Dans mes rêves les plus fous, il y a une joie profonde à l'idée que tout disparaîtra. Mais c'est dans mes rêves les plus fous, et ça supposerait de me mentir un peu. Je suis bouleversé par... Je suis toujours bouleversé par les traces qu'ont laissées les gens, y compris les gens les plus anonymes, les plus inconnus. Je me souviens d'un des textes les plus émouvants que j'ai pu lire, qui est encore un texte de Foucault, qui est La vie des hommes infâmes de Foucault. Et qui s'interroge et s'émeut de ce que un certain nombre d'hommes et de femmes infâmes, c'est-à-dire qui n'ont pas accédé à la renommée, ne puissent nous parvenir qu'à la faveur de l'infraction qu'ils ont commise, parce que un jour un tel est rentré ivre mort chez lui et qu'il a été arrêté par la maréchaussée, et que du coup il a laissé une trace. Et cette trace-là me bouleverse et je m'en sens dépositaire. Et c'est en un sens, pour moi qui ne crois pas qu'il y a une vie après la mort, la seule chose qui puisse en un sens réarticuler la conviction profonde que j'ai que tout cela n'a pas de sens, et l'espérance réelle que quelque chose aura eu lieu. Et donc la question des traces se pose pour moi.
Et c'est sur ces traces d'infâme que nous allons vous quitter, Philippe Mangeot, car malheureusement, nous devons vous quitter. Merci de nous avoir accueillis. Nous ne manquerons pas de guetter les prochaines traces que vous laisserez. Fin de cette rencontre d'Adila Benedjaizou avec Philippe Mangeot. À voix nue, réalisation Massimo Bellini, prise de son Nicolas Mathias, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.